Merci, Monsieur Mitterrand. Mais je crois qu'il y a eu une. C'est improprement qu'on a intitulé mon intervention les techniques photographiques, parce que je ne les connais pas, les techniques photographiques de l'époque de Zola, en tout cas pas suffisamment pour en parler intelligemment. Il avait d'abord été question de Zola et la modernité photographique. Mais enfin bon, je vais me tenir entre les deux. Je voulais dire aussi en préambule, d'abord féliciter le professeur Kahanov pour son intervention, mais dire que je regrette de devoir dire malheureusement quasiment la même chose que lui. Nous ne sommes pas, nous ne sommes pas communiqués nos interventions, et malheureusement, bon, c'est un honneur de passer l'avant-dernier, mais aussi une malchance, parce que je crains de répéter ce qui a été dit. Bon, allons-y tout de même. C'est en 1888 que Zola commence à s'intéresser à la photographie à l'occasion de vacances qu'il passe à Royan, en compagnie de son éditeur charpentier, du graveur Desmoulins et des Laborde, cousin de sa femme Alexandrine, laquelle a emmené avec elle une jolie lingère nommée Jeanne Rosereau. Cet été-là, il se montre gai et se laisse aller à l'insouciance des vacances. Avec ses amis, il se fait photographier en costume d'alpaga, en bateau, ou déjeunant en plein air, sous les arbres. Alexandrine, qui souffre de malaise, incite son mari à se promener sur la grève, va même jusqu'à lui proposer d'emmener avec lui la jeune lingère. J'ouvre les guillemets, c'est une fête perpétuelle pour l'écrivain qui traverse une période très saine de travail, se porte admirablement bien et se retrouve comme à 20 ans lorsqu'il voulait manger les montagnes. Fin de citation. Jeanne a 20 ans. De nouveau les guillemets, les yeux clairs, les lèvres saines, le cou délicat surtout, satiné et rond, ombré de cheveux follets sur la nuque. Fin de citation. Il a 27 ans de plus qu'elle. C'était monstrueux. Reconnaîtra Zola dans le Docteur Pascal, mais c'était bien vrai. Il avait faim de tout cela, une faim dévorante de cette jeunesse, de cette fleur de chair si pure et qui sentait bon. Cette année-là donc, Zola a deux révélations, l'amour et la photographie. En vérité, il semble que Jeanne ne sera sa maîtresse qu'en décembre de la même année. Quant à la photographie, à laquelle l'initie Victor Billot, un journaliste et poète de ses amis, il ne la pratiquera vraiment que 6 ans plus tard. Les photographes dont je me trouve être savent le rôle de voyeur auquel ils sont condamnés par la nécessité d'enfermer dans la caméra oscura le sujet qu'ils ont fait choix d'y attirer, à l'instar du gibier que traque le chasseur. Ils savent que les opérations de cadrage, de la mise au point, de l'armement de l'appareil et enfin du déclic sont assimilables à la fois à la chasse, je n'irai pas jusqu'à évoquer les chasses du Gonzarov, et au comportement qui précède la possession amoureuse. Dans tous les cas, la préparation physique et psychologique, la mise en scène, la maîtrise de soi, alliant l'audace à l'expérience, sont les éléments essentiels de la réussite, même si une défaillance est toujours à craindre et si le rôle du hasard n'est pas à négliger. Il est certain qu'il s'est établi en les circonstances, fût-ce pour de brefs instants, une relation de maître à esclave. Le sujet est entre les mains du photographe, il est sous cette totale dépendance, il ne doit pas bouger ou se mouvoir de la seule manière qui lui a été prescrite. Il est devenu une proie à la merci d'un prédateur, et à cet égard, il me paraît significatif de citer le cas de ces chasseurs invétérés qui ont substitué, avec un plaisir aussi grand de leur aveu, la caméra à lunettes de visée au fusil meurtrier. Lorsque Zola photographie Jeanne, il est donc doublement amoureux d'elle. Et la photographie a-t-elle joué pour lui le rôle d'un prélude charnel? C'est bien possible, si l'on considère le nombre de photographies qu'il a faites d'elle, et surtout les avatars vestimentaires qu'il impose à son modèle, et qui comportent chaque fois des habillages et des déshabillages. Zola va même jusqu'à braver les convenances de l'époque en photographiant Jeanne en cheveux, ce qui revenait à faire de son amie soit une cocotte, soit une sauvageonne. Il dénude ses épaules et son dos, et sous différentes faces, la montre dans un drapé grec. Arrivé à ce stade, il me semble que Zola n'a pas pu ne pas aller plus loin et que les épreuves qui en portaient témoignage ont dû être détruites ensuite par de pieuses mains. Si tel est le cas, c'est bien dommage, d'autant que l'amour sincère que se portaient Zola et Jeanne excusait tout, si tant est qu'il ait besoin d'une excuse pour livrer au regard la beauté plastique d'un corps. On sait bien que la vue, fût-ce par le substituable de l'objectif photographique, participe comme les autres sens au rituel de l'échange amoureux. À tout le moins, cet acharnement de l'œil photographique autour de la femme aimée outrepasse le prétexte allégué de composer un simple album de souvenirs. Pourquoi Zola a-t-il attendu 1894 pour se mettre à la pratique de la photographie? D'autres que moi, qui connaissent mieux la vie de l'écrivain et sont plus familiers des travaux et des jours durant ces 6 années, pourraient apporter une réponse à cette question. Peut-être fallait-il à Zola le temps de s'installer dans sa double vie. C'est à partir de 1893, pendant les mois d'été, que Jeanne et les deux enfants qu'il a eus d'elle viennent s'installer à Cheverchemont, à proximité de Triel et en face de Médan, d'où il peut dorénavant les observer du balcon de son cabinet de travail à la Jumelle. Durant les étés suivants, Jeanne habitera à Verneuil, maison plus proche de Médan, dotée d'un grand jardin. Aussi pourra-t-elle se porter à la rencontre de l'écrivain qui se déplacera à bicyclette. On peut donc supposer que c'est à partir de cette époque que Zola pourra installer trois laboratoires photographiques dans lesquels il travaillera à tour de rôle, l'un à son domicile parisien de la rue de Bruxelles, un autre à Médan, où il passe 6 mois de l'année, un troisième enfin à Verneuil. Mais peut-être aussi Zola a-t-il attendu 1894 parce qu'à cette date, la plus grande partie de son œuvre est écrite et qu'il peut consacrer tout son temps à ce qui va être pour lui plus qu'un divertissement. On est tenté en effet d'assimiler la prise de vue photographique à la tenue d'une espèce de carnet de notes visuelles. Et le fait même que Zola ait voulu nous laisser un témoignage aussi complet de l'exposition de 1900, environ 800 photographies d'après François-Émile Zola, dont il a pris des centaines de photos, tous les pavillons français et étrangers, mais aussi les portes, les voies d'accès, etc., donnent à penser qu'il préparait quelque ouvrage sur le sujet, en forme peut-être d'un hymne au progrès. Seule la mort brutale de l'écrivain, une nuit de l'automne 1902, pouvait mettre fin à cette boulimie d'images. Zola, en effet, photographie tout. À Médan, par exemple, le site, les trains de la bête humaine et les chalands qui passent, la maison qui s'agrandit à mesure qu'augmente le tirage des romans, sa femme, les amis en visite, les domestiques, les animaux de la ferme, le jardin, la serre et les chiens jusque dans l'exercice de leurs besoins naturels. On a donc affaire ici à un parti encyclopédique, comme si Zola entendait réaliser le rêve des anciens en enfermant dans sa chambre noire toute la mémoire du monde. Il n'est peut-être pas inutile de revenir quelque peu en arrière et de retracer même brièvement les principales étapes technologiques depuis que l'invention de Niépce et de Daguerre, qui à partir de 1829 ont mis en commun leurs travaux. En 1839, le savant Arago présente l'invention de Daguerre, le daguerreotype, comme un miroir à mémoire, entre guillemets. C'est un pas important depuis la première image obtenue en 1827 sur une plaque d'étain enduite de bitume de Judée. Toutefois, l'épreuve reste encore unique. Mais c'est l'année suivante, en 1840, que William Henry Fox Talbot invente la négative papier. C'est, avec la possibilité de produire des multiples, la naissance de la photographie moderne. Dans le domaine des appareils, les progrès accomplis en vue de l'allègement de leur poids sont considérables. Car celui qui commercialisa Daguerre pesait 52 kilos, chambre de développement comprise. De la même manière, pour obtenir une bonne exposition, il fallait alors que le sujet restât immobile un quart d'heure durant en plein soleil. Et pour mieux réfléchir à la lumière, on poudrait les visages comme on fera encore au temps du cinéma muet. 6 mois plus tard, l'appareil ne pèse plus que 4 kilos. Et le temps d'exposition n'est plus que d'une minute au soleil et de 2 ou 3 minutes dans une lumière diffuse. Un Français, Antoine Claudet, qui fait à Londres le commerce des glaces biseautées de prix, va même parvenir à réduire à 20 secondes cette exposition. Il reste que la prise de vue se fait le plus souvent en extérieur et que la photographie dite instantanée relève du domaine de la recherche. On photographiera des vagues à Dieppe en 1857 et la célèbre photographie prise par Degas chez Mallarmé et montrant le poète en conversation avec Renoir exigea encore une pause de 15 minutes, la lumière étant fournie par 9 lampes à pétrole. Au début du Second Empire, la photo est si répandue dans le public qu'on peut se faire tirer le portrait chez le coiffeur ou le marchand de tabac. Et des photographes forains parviennent à exposer et à fixer une image positive en quelques minutes sur une plaque de tôle émaillée. En somme, la photographie est devenue à la fois l'affaire des grands bourgeois et celle des petits commerçants avisés. Et même si l'artifice n'est pas absent dans cet art nouveau, chez Nadar et Carja, la toilette est une seconde peau destinée à refléter la personnalité, la photographie a eu sans doute une part prépondérante dans l'apparition du réalisme en littérature comme dans la peinture. Aussi, l'œuvre de Zola se trouve-t-elle être tributaire de la photographie avant même que son auteur ne s'intéresse à ce mode d'expression. Et la grande question qui agite les esprits à l'époque est celle-ci. La photographie est-elle un art? La réponse des artistes officiels, Ingres en tête et catégorique, c'est non. Est-ce un art, demande Lamartine, dans son cours de littérature, que la réverbération d'un verre sur le papier? Non, c'est un coup de soleil pris sur le fait par un manœuvre. Mais où est la conception de l'homme? Où est l'âme? Fin de citation. Pourtant, touché par la beauté des portraits d'Adam Salomon, il ne tardera pas, enfin Lamartine ne tardera pas à se déjuger. La photographie contre laquelle j'ai lancé le thème inspiré par le charlatanisme qui la déshonore, la photographie, c'est le photographe. C'est un art, c'est mieux qu'un art, c'est un phénomène solaire où l'artiste collabore avec le soleil. Le magazine pittoresque de 1878 donne des conseils intéressants sur les progrès de la photographie instantanée, tant sur l'objectif à obturateur mobile qui est préconisé que sur les distances, la mise au point, l'orientation de l'éclairage, le bain à nitrate d'argent utilisé, la qualité du collodion ou la puissance du révélateur. Il n'est pas impossible que Zola ait lu de ces articles dont certains paraissaient dans les revues spécialisées. Plus sûrement, il a dû écouter les conseils que lui donnèrent des professionnels éminents tels que Carja, Pierre Petit et Nadar. Avec ce dernier, au reste, il eut une correspondance suivie et leur première rencontre remonte aux années 60. Enfin, des notes manuscrites de son grand-père retrouvées peu avant son disparition par notre ami François-Émile Zola, montrent qu'il consignait avec méthode le résultat de ses expériences et ne faisait pas fi des vertus de l'empirisme. Ainsi, en cette fin de siècle, Zola est-il parmi ses pairs l'écrivain le plus passionné de photographie. Durant les 8 années qui précèdent sa mort, il va prendre plusieurs milliers de clichés. Comme il est à l'affût de tous les perfectionnements techniques, il n'achète pas moins de 10 appareils, de quoi satisfaire le professionnel le plus exigeant. Et dans le sous-sol de ses résidences, il développe ses négatifs et tire ses épreuves lui-même. Il essaie tous les papiers, les bleus et les verts, le papier pan, alors en vogue, et même papier platine, moins sensible au vieillissement et qui, grâce au velouté de ses gris et la profondeur des noirs, apporte à l'épreuve photographique un élément esthétique nouveau. Il met au point un déclencheur, probablement par le moyen d'une poire pneumatique, qui permet de se photographier soi-même, voire à distance avec Jeanne et les enfants, ou un médan avec ses invités. Pour les besoins du portrait, il dresse en plein air une toile de fond de couleur neutre, se sert de tous les formats, avec une préférence pour le 13-18 et le 18-24, mais il ira pour les natures mortes, ou pour photographier son portrait par Manet, jusqu'à faire le choix d'un 24-30 cm. Pour les paysages, il utilise un panoramique Kodak d'un format tout à fait insolite, 9 par 30 cm, dont il lui arrive de se servir dans le sens vertical, assez rarement d'ailleurs. Pour opérer, il monte sur une terrasse, escalade de Trocadéro, ou 2 étages de la tour Eiffel toute neuve, et enfin, il sillonne l'exposition de 1900 en tous sens avec un appareil de poche qui est chargé de films en celluloïd qui viennent de faire leur apparition de la même manière que se répand parmi les amateurs le modèle box lancé en 1888 par George Eastman. Ce qui fait l'originalité de Zola photographe et détermine son style, c'est qu'il ne sacrifie en rien aux habitudes de l'époque. Jamais de retouche, ce qui est quand même une chose assez incroyable. Même dans les portraits, ce qui donne à ceux-ci un caractère presque vériste. Le visage de Jeanne Rosereau nous apparaissant parfois avec la même vérité sensuelle que celui de Magnani dans les films de Rossellini. Refus aussi des accessoires alors courants tels que banquettes, balustrades, guéridons, toiles peintes à l'arrière-plan et plantes vertes sur le côté. Il prend d'instantané des poses de durée variable, il opère par tous les temps, sous le soleil, sous la pluie, sous la neige, mais même de nuit, ce qui était rare pour l'époque. Paul Valéry, opposant plus tard le réalisme dans les lettres à celui de l'objectif, dira de la photographie qu'elle nous engage à cesser de décrire ce qui peut de soi-même s'inscrire. Fin de citation. On sait l'importance qu'accordèrent la photographie des artistes comme Delacroix, Degas, Bonnard ou Vuillard, et l'influence qu'elle eut parfois sur leur art. Mes souvenirs visuels ont une puissance, un relief extraordinaire, constate pour sa part Émile Zola. Quand j'évoque les objets que j'ai vus, je les revois tels qu'ils sont réellement, avec leurs lignes, leurs formes, leurs couleurs, leurs odeurs, leurs sons. C'est une matérialisation à outrance, le soleil qui les éclairait m'éblouit presque. Alors maintenant, nous allons voir quelques vues que malheureusement vous avez déjà vues tout à l'heure, ou ce matin, je ne sais pas, je n'étais pas là ce matin, et nous pourrons éventuellement en commenter quelques-unes. Dans quel sens je dirige le...
Excusez-moi. Vous appuyez sur la rouge pour avancer.
Ah d'accord.
Simplement ça, hein, le rouge. Et bon. Si vous voulez revenir en arrière sur la...
D'accord. Alors Zola photographe, Zola photographié, au bois de Boulogne, avec son appareil sur un pied. Bon, la photo est floue, mais enfin elle a le mérite de nous montrer, nous révéler un Zola photographe moderne, à l'inverse de la précédente. Là, c'est l'œil qui vise, dans le viseur directement. en Corse de la photographe, c'est devenu maintenant une espèce de stéréotype du sujet. Alors voici toute une série d'appareils photographiques retrouvés que possédait le docteur François Milzola et qui m'autorisait à photographier. Alors je ne sais pas si on voit bien les numéros. Oui, alors une chambre Brichot, numéro 1 à gauche, chambre Brichot, acajou et cuivre avec châssis de bois noir. Numéro 2, un folding pocket Kodak numéro 3. Numéro 3, un sac en cuir pour ranger les châssis. Numéro 4, un West Pocket de 1902. Petit appareil qui se glisse facilement dans la poche, comme vous voyez. Ce qui me frappe d'ailleurs quand je vois certains de ces appareils, c'est qu'ils ne sont pas très différents, ils étaient très en avance sur leur époque, ils ne sont pas très différents de ceux dont se servait ma sœur aînée dans les années 30, par exemple. C'est le même principe de souffler, de viseur, etc. Numéro 5, West Pocket Kodak de 1912, ayant appartenu au docteur Jacques-Émile Zola. Numéro 6, un Eastman Kodak cartridge numéro 5. Numéro 7, la fameuse jumelle Carpentier, d'un format aussi particulier, 9 par 30 cm. Numéro 8, une autre jumelle Carpentier dans son étui, propriété du docteur, propriété de Jean-Claude Leblon Zola. Numéro 9, une boîte de plaques sèches au gélatino-bromure d'argent de marque Lumière et ses fils. Et enfin, numéro 10, une sacoche en toile contenant des châssis. Alors voici l'une des 12 ou 13 petites notes manuscrites de Zola qu'avait retrouvé peu avant sa mort François-Émile Zola. C'est un petit format et c'est assez intéressant parce que Zola note ses observations, disons, ses tâtonnements, ses observations empiriques, enfin fruit de son expérience, concernant le développement des papiers ou des conditions d'éclairement pour la prise de vue. Je ne sais si vous arrivez à déchiffrer l'écriture. On n'a jamais donné compte en développement très clair. Il faut arrêter le développement dès que la figure s'indique. Et il s'achève pendant qu'on rince. Dès qu'on développe un peu trop, l'épreuve devient noire. Cela n'est bon qu'avec un cliché intense, qui est une épreuve à la Rembrandt. Mais dans le courant, restait toujours en deçà du ton, très clair, surtout pour les sanguines. Un peu trop développées, elles s'empâtent et deviennent lourdes, soulignées, les laisser très claires. Alors voici justement, le format est un petit peu recadré, là, m'aidant avec le panoramique. Voilà le véritable format du panoramique. Alors, m'aidant, plus rapproché de la maison et des dépendances. Plan plus rapproché encore. L'arrivée des invités. Les invités, dont l'éditeur Charpentier. Le balcon de Maupassant, Nouvelle Manière, l'éditeur Charpentier, dont la ressemblance avec Brassens est assez grande. Bon, vous revoyez encore les mêmes photos. Alors, Paulette Brula, ce qui me frappe dans cette photographie, justement, c'est son côté qui est non apprêté et qui est tout à fait l'opposé de ce qui se pratiquait à l'époque couramment. On coiffait les enfants très soigneusement, et ça se faisait encore jusqu'il y a quelques décennies, naturellement. Et le désordre savamment organiser des cheveux, contribue à la qualité plastique, naturellement, de la photo. Madame Zola et le couple. Alors, le cheval bonhomme et le domestique Jules, qui a eu tout à fait une tête de comique des burlesques américains de cette époque-là, enfin, des années qui suivent. Alors, les trains, l'obsession des trains, de la bête humaine, qui passe en bas de la propriété à Médan, et l'arrivée de Jeanne, c'est un véritable monnaie photographique. Alors, malheureusement, à ce sujet, je vais redire ici ce que j'avais dit déjà il y a 2 ans, avant la mort de notre ami François Mezzola, en l'engageant vivement à préserver son patrimoine photographique, c'est que quand j'ai fait l'album il y a 10 ans, déjà la gélatine de cette épreuve était décollée, et j'ai dû me contenter de reprendre un mauvais tirage, enfin un tirage médiocre plutôt des années 50, qui est apparu dans l'album Zola de la Pléiade. Et quand j'ai retravaillé, enfin, il y a 2 ans, avec le docteur François Zola chez lui, boulevard Suchet, j'ai revu cette plaque de verre, et la gélatine était devenue une épluchure de pommes de terre, enfin vraiment complètement en spirale, nécessitant évidemment un recollement complet, une restauration totale, et en tout cas inutilisable pour un tirage. Jeanne à bicyclette. Le rendez-vous. Zola et Jacques. Bon, alors voilà Jeanne. Alors, à l'inverse des autres photographies que vous verrez ensuite, cette photo est prise comme un portrait de profil, mais devant un élément naturel. Alors, je souligne le caractère tout à fait spontané de la prise de vue. Enfin, il y a le minimum de pose. Très beau sous-bois, assez proche de la peinture, effectivement, on se laisse aller à des comparaisons. Le goûter, notez la présence du chapeau de paille accroché à l'arbre, sur la gauche. Notez aussi, comme l'avait fait remarquer le docteur François Mezzola, que les fauteuils que Zola avait achetés pour Jeanne étaient les mêmes que ceux qu'il avait achetés pour lui à Médan. Il avait acheté en double. La famille. Notez que Zola est en train de lire l'Aurore. Très belle photographie, parce que celle-ci aussi n'est pas un portrait, enfin avec une pose obligée. Ce qui me paraît remarquable, c'est justement les risques que Zola a pris en photographiant ses 2 enfants avec un décalage de plan qui donne justement ce relief, cette profondeur à la photo. Denise. Encore Denise. Notez la lumière qui se groupe sur la partie supérieure du visage. Enfin, il y a quand même une science photographique. Tout à l'heure, je dirais au professeur Kahanov qu'à mon avis, Zola est à la fois un amateur, un reporter et un artiste. Il est tout à la fois. Jacques. Alors voilà Jeanne, dans tous ses états. Et cette photographie, comme celle qui va suivre, je crois, montre le côté tout à fait spontané de cette prise de cette pose. Et le côté verriste, j'insiste sur le terme, avec la bâche grise derrière et ce flot de dentelle sur le devant. Le regard est dur. Et tout à l'heure, le professeur Kahanov a montré Jeanne souriante. À ma connaissance, c'est la seule photographie où l'on voit Jeanne sourire. Malheureusement, elle est un petit peu floue, on ne peut pas l'agrandir beaucoup. Bon, voilà effectivement de très belles photographies qui montrent la proximité de la photographie et de l'art tout court. On pense évidemment à Manet ou à Berthe Morisot. Et sur le plan vestimentaire, bon, ces avatars sont incessants. Et les contrastes plaisants. Vous voyez que Zola semble obsédé par les 3/4 d'eau. Ce qui n'était pas du tout courant à l'époque dans la prise de vue photographique. Je pense que le corps de Jeanne répond au canon de l'époque. Hein. Il y a aussi chez Zola, c'est nouveau dans la photographie, ça tient aussi au fait qu'il a fait nombreuses prises de vue, le goût des séquences. Il a un sujet, il s'y tient pendant plusieurs photographies, et ça finit par composer une espèce de petit film. voyez aussi le rôle que joue avec intelligence dans cette photo, je pense que c'est vraiment pas le hasard, l'ombre et la lumière. C'est-à-dire, en fin de compte, noir et blanc, ce qui fait sa beauté. Bon, on a vu tout à l'heure la photo de Mantes. Alors, j'avais tenté moi-même de recadrer les photos de Zola. Je ne l'ai pas fait, je me suis interdit de le faire, sauf une fois dans l'album. D'ailleurs, je pense que vous verrez la photo en question tout à l'heure. C'est vrai que si l'on recadre des photographies de Zola, on a d'autres photos que celles qu'on a sous les yeux, dans leur intégralité. C'est bien vrai aussi que la comparaison faite tout à l'heure entre le boulevard des Batignolles, je crois, et puis cette photo d'un photographe du début du siècle, la comparaison aurait peut-être été meilleure si le professeur Karanoff avait bien voulu recadrer la photo dans le même esprit que sa concurrente, si je puis dire. Alors là, intermède italien, lors d'un bref voyage qu'il a fait, est-ce que cette colonne l'a gêné ou est-ce qu'il en a tiré parti pour la prise de vue ou les deux, allez savoir. En tout cas, elle apporte un premier plan qui donne de la profondeur à l'ensemble de la photographie, c'est évident. J'aime beaucoup l'humour de cette photo. Là, je crois que c'est d'un grand photographe, cette photo. Avec la suivante aussi. Et celle-ci aussi, dont j'ai fait une double page de l'album, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Jusqu'aux pancartes publicitaires sur l'extrême gauche, jusqu'au porte-indicateur, tout joue son rôle dans la photo. Il y a beaucoup de plans différents, il se passe beaucoup de choses. Très belle photo naturaliste d'un petit marchand de lait, je crois, de lait triambulante. Toujours les trains, cette fois c'est à Londres. Et là aussi, j'avais fait des essais de recadrage. On peut très bien recadrer, par exemple, les deux attelages, là, ensemble ou séparément. Bon, on peut faire toutes sortes d'effets, enfin, comme maintenant on le fait couramment. Photo très bien composée. Et voici la photo dont parlions tout à l'heure longuement, de la gare Saint-Lazare, qui est extrêmement vivante. Je me demande d'ailleurs comment Zola a pu prendre cette photo avec des gens qui marchent sans qu'on ait des problèmes au niveau du flou. Il est vrai que le soleil paraissait assez intense. On est même à la limite de la surexposition vers le bas. Le Grand Palais, exposition de sculpture. C'est un document. Alors voici une photo que j'ai recadrée. Je lui ai donné la forme d'une photo prise au panoramique. Ce n'est pas du tout le cas, c'est une photo format traditionnel. Mais je me suis amusé pour une seule fois à montrer qu'avec un recadrage, on obtient une photographie extrêmement vivante de ce paysage urbain. Zola rentre chez lui, près de la place Clichy. Alors, il y a toute une série de photographies qu'il a faites sous la pluie qui sont proprement admirables. Vous voyez que si nous pouvons recadrer ici, avec le personnage, l'omnibus, dans un stylo blond, nous obtenons presque la photo que nous avons vue tout à l'heure. Toujours là.
Et vous n'avez trouvé aucune trace de photo de ces voyages à Rome, par exemple?
Aucune trace.
Aucune trace. Enfin,
je ne pense pas. Je ne crois pas.
De la même façon que vous avez fait un rapprochement.
Non, excusez-moi, non. Si à Rome, si, il y a des photos dans l'album. Si. Ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y en ait pas de Venise. Car c'est la ville la plus photogénique du monde, il y est passé, mais il n'y a aucune photo de Venise dans son dossier italien. Mais Rome, si, il y a des photos du Forum, il y a des... Si. Très peu d'ailleurs, très peu.
Parce que le voyage à Rome et le voyage à Lourdes ont quand même été...
À Lourdes, il n'y a rien.
Il n'y a rien du tout.
Je n'ai rien trouvé.
Il n'a pas pensé à utiliser dans ces dossiers comme que par soi.
Mais à quelle époque était-il à Lourdes? Je ne suis pas zoliste, je m'excuse. Quelqu'un peut-il me dire à quelle époque Zola voyageait à Lourdes?
91-92.
Eh bien, en 91-92, Zola ne faisait pas encore de photos. Il connaissait la photographie depuis 1888, mais il a vraiment commencé qu'en 94. Pas seulement, quand même, parce que...
Non, mais on l'a vu,
oui.
Il resterait à voir s'il y a vraiment un lien entre Zola photographe et Zola romancier.
Bah, il y a... Non, enfin, le lien, c'est nous qui le faisons. Parce que quand il a commencé à faire de la photo, comme on vous l'a dit, son œuvre était quasiment totalement écrite. Jérôme Gombacard était terminé. Et c'est dommage de penser que les trains de la bête humaine qui passaient au bas de sa propriété à Médan... Il les photographiait à une époque où la bête humaine était écrite et publiée. Donc, c'est pas ça qui l'inspirait. Mais il n'est pas du tout exclu, enfin, moi, je pense en tout cas, pour ma part, il n'est pas du tout exclu qu'il avait en vue quelque chose d'important à écrire à partir de photographies qu'il avait prises, qui pouvaient donc servir d'espèce de bloc-notes visuelles. Ce n'est pas du tout impossible. Mais la mort est venue interrompre. C'était la vie de votre grand-père. Oui, bien sûr, oui.
Monsieur Cano.
Et ce que je voudrais essayer d'éclaircir et poser aussi la question ici, ce sont deux questions. Premièrement, est-ce qu'il s'est initié à la photographie en 1888 ou en 1897? Parce que la première lettre dans laquelle il parle de la folie qui s'est emparée de Charpentier et de Billon, date de 87 et non pas de 88. Deuxième question, comment arrive-t-on à la conclusion qu'il a commencé en 94? Plusieurs biographes de Zola prétendent qu'il a pris des photos de Dalle en 86. Et en regardant votre album, il me semble, je n'en suis pas tout sûr, mais il me semble qu'il y a des photos où Jeanne est beaucoup plus jeune. J'en ai une qu'on va vous montrer peut-être, mais nous allons décider tous ensemble si elle a l'air d'être plus jeune ou non. En tout cas, elle me semble beaucoup plus jeune. Et en tout cas, il y a au moins deux biographes qui prétendent que cela a commencé en 1888, tout de suite après son initiation, peut-être en 89, peut-être en 90, mais pas en 94. D'où est-ce qu'on arrive? Comment est-ce qu'on arrive à cette date 94? Et puis vous-même, je crois que dans les deux éditions, la française et l'américaine, vous avez deux dates différentes.
J'ai rectifié pour l'édition nouvelle.
Oui, dans la deuxième, vous avez...
Nous avons avancé d'une année.
Oui, vous avez avancé d'une année, c'est ça.
Mais je peux me permettre de vous répondre tout de suite. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste de Zola, mais il me semble que si Zola avait dû faire des photos de Jeanne, plutôt que la date qu'on attribue généralement, c'est à 94, il me semble qu'il aurait photographié les enfants
voilà.
qui étaient nés. Or, il n'y a aucune photo des enfants avant un certain âge.
C'est ça.
Donc, il me semble...
C'est ça.
Ah oui, bon, oui, d'ailleurs, c'est pas Pierre Petit qui l'a photographié. Moi, bon, je crois que la réponse, je vous la donne, en tant que père de ses enfants... Il aurait pris des témoignages d'eux, comme il l'a fait ensuite.
À cette époque des deux.
Or, écoutez.
Je crois que j'en suis
désolé. Écoutez. Or, les premières photographies d'enfants qui apparaissent, je ne pense pas que les enfants aient moins de 5 ou 6 ans. Enfin, même, je ne sais pas, il n'y a pas de. En tout cas, alors, pour le reste, je ne sais pas. Bon, bien sûr, comme il a connu Nadar et d'autres photographes, dont Pierre Petit. Beaucoup plus tôt, il a pu avoir une initiation partielle à la photographie, plutôt qu'on le dit. Mais moi, je ne suis pas sûr que les photographies de Jeanne montrent des différences d'âge très sensibles. Je pense que ça peut jouer. Ça peut être suivant la robe qu'elle porte, la lumière, l'angle de prise de vue, la coiffure.
Oui.
Une question, monsieur Massin. Zola développait et tirait lui-même ses photos. Quelle est la part que vous accordez à cette phase ou à ces deux phases dans le travail du photographe pour expliquer la qualité et la beauté technique de certaines des images que nous avons vues? Est-ce que le travail technique du développement et du tirage ajoute au travail du regard initial?
Sûrement, parce que l'exposition qui a eu lieu à la CEITA, au musée Galerie de la CEITA, il y a 2 ans, a bien montré, avec l'exposition qui a été faite justement de tirages personnels faits par Zola, sur des papiers différents, qui n'a pas cessé d'expérimenter des papiers, des bromures, des produits. Et je crois que... D'ailleurs, en plus, ce qui me réjouit en l'occurrence, c'est que Zola réunit en quelque sorte les deux fonctions qui maintenant sont totalement dissociées, à savoir qu'il est à la fois l'artiste et l'artisan. Il crée et il exécute. Il crée ses photographies, il fait ses tirages lui-même. Bon. Qu'il ait voulu faire ses tirages lui-même, ça peut s'expliquer par le fait qu'ayant une maîtresse, évidemment, il ne pouvait peut-être pas que circulent toutes ces épreuves à l'extérieur. Mais enfin, je pense quand même que très sincèrement, il avait envie de faire ses développements, ses tirages lui-même, et qu'il y a passé beaucoup de temps. Et c'est bien pourquoi aussi il n'a pu faire se livrer à ce passe-temps qu'à une époque où, son œuvre étant écrite, il avait quand même davantage de loisirs, me semble-t-il, que précédemment. Mais il est évident, enfin, pour moi, que la qualité de ces photographies, le rapport de l'ombre et de la lumière, je me répète, de noir et des blancs, c'est lui qui a décidé de ça. Et je crois que c'est aussi une erreur qui a été faite, là cette fois, bon, c'est à son passif, pour moi, par Jean Dieuzède à Toulouse, dans l'exposition qu'il a faite des photographies de Zola. Autant il a fait un travail admirable de reconstitution, des restaurations, plutôt de restauration, mais il a fait une erreur, je pense, en les présentant dans des tirages, dans des tons sépia, parce que bon, tout le monde sait que les tons sépia sont le résultat, dans la quasi-totalité des cas, de virages dus au vieillissement. Et les tirages faits par Zola, avec les papiers qu'il fallait, les produits qu'il fallait, ne sont pas du tout sépia, mais ils sont restés noir et blanc. Mais il y a la réussite, pour moi, la grande réussite de Zola, c'est d'avoir trouvé cette espèce de couleur de noir et blanc qui, à l'époque, était quand même nouvelle et qui est justement très moderne.
Si vous pour ajouter, Henri, pour essayer de vous répondre, et que dans les notes techniques de Zola sur la photographie que François-Émile Zola a découverte finalement peu de temps avant sa mort, il y a un certain nombre de notations de type technique. Bon, en particulier sur la durée d'exposition, et à propos desquels Zola note 3 minutes, bon, je vous cite de mémoire, hein, 3 minutes c'est bien, mais insuffisant pour les noirs, et en particulier il l'indique à propos de 2 photos de Denise. Alors je pense de toute façon que ces notes sur la photographie de Zola qui comportent exactement 13 feuillets seront bientôt éditées. Je ne rappelle plus à nos collègues, il me semble que c'est Alain Buisine, hein, qui devait le faire, et donc nous pourrons, et ces notes permettront dans une certaine mesure de répondre à la question que vous posiez à Massin et auquel il répondait d'ailleurs, parce que ça corrobore tout à fait, hein, les notes techniques. Et en fait, la réflexion technique était à visée, entre guillemets, artistique, hein, et esthétique.
Encore un mot. Vous disiez tout à l'heure que si Zola consacre beaucoup de temps à la photographie à partir de 1994, c'est parce que son œuvre est écrite. Moi, je mettrais quand même un bémol à cette proposition, parce que ce sont les années pendant lesquelles il écrit d'énormes massifs romanesques, hein, les 3 villes et puis les 4 évangiles. En 1997-1998, ce sont les années pendant lesquelles il est vraiment mobilisé en permanence par l'affaire Dreyfus. Je crois que c'est... Il ne fallait pas donner l'impression que c'est un passement de retraité, je dirais. Hein. Mais alors, ça pose quand même une question intéressante, et moi que je renvoie aux spécialistes de Zola photographe, et j'espère qu'il y en aura de plus en plus. Il faudrait essayer d'aboutir à une périodisation, parce qu'il y a certainement des époques dans la carrière photographique de Zola. avec des périodes de pleine productivité et puis des périodes de creux. Or, actuellement, on parle des photos de Zola comme si elles se situaient dans une continuité absolument lisse, comme si c'était un massif à l'intérieur duquel on ne puisse pas retracer l'histoire interne. Est-ce qu'on est en mesure d'établir ces périodes? Je n'en sais rien. On peut le faire peut-être par des témoignages externes et aussi par une analyse interne des photos, mais en tout cas, c'est un travail important à faire, hein, qui n'est pas seulement un travail d'analyse technique des documents, mais un vrai travail d'histoire littéraire, disons, un vrai travail d'histoire de la création. Or, actuellement, nous sommes, je crois, dans le brouillard de ce point de vue. Il est bien difficile de situer, sinon approximativement, des photos de 96 par rapport à des photos de 99 ou par rapport à des photos de 1901, etc. Donc l'inventaire, moi, que j'appelle de mes voeux depuis déjà pas mal de temps, il faudrait que ce soit aussi un inventaire chronologique.
Juste à vous pour vous répondre. Dans mon esprit, quand je disais que ça devrait être écrite, c'est vous dire les Rogomacar, bien sûr, c'est un petit peu comme si Balzac avait pu voir s'acheter la comédie lui-même et qu'il n'y eut plus qu'à écrire quelques romans d'une importance infiniment moindre, bien sûr. Il n'avait quand même pas plus l'obsession de cette œuvre cyclique qui était publiée.
Monsieur Kainoff, oui.
Je voudrais, si possible, une petite remarque sur est-ce que Zola employait des photos pour sa documentation. Madame avait dit dans son exposé que, d'après Jacques, Jacques pense que son père avait pris des photos pour ses derniers romans, au lieu de notes ou avec les notes. J'ai cherché dans la bibliothèque Méjeanne et j'ai cherché à la BN ici des traces de n'importe quelle photo ou de commentaires de n'importe quelle photo. Rien. Je n'ai trouvé aucune trace. À mon avis, d'après ce que j'ai trouvé, Zola ne s'est jamais servi de la photo pour se documenter pour ses romans. Ça, bon, si on trouve une trace quelque part, je serais très content de la voir et de l'analyser. Deuxièmement, ce que je voulais dire, c'est que, à mon avis, on peut sans doute trouver dans les photos de Zola le même Zola qui avait écrit ses romans. Oui. C'est le même Zola. C'est la même sensibilité de regard, c'est la même vision des choses. Et bien qu'il n'a pas photographié le quartier de la rue de la Goutte d'Or, mais moi, je crois que Zola, tout simplement, ne faisait pas des promenades pour prendre des photos. Il se promenait autour des places où il vivait. Il a pris des photos à Médan, il a pris des photos à Paris autour de son appartement, et le parc Monceau. Il ne s'est pas trop éloigné de sa maison pour prendre des photos. Il n'est pas allé à la montagne, il n'est pas allé à la mer. Et il était un peu vieux, un peu âgé, je crois. Il ne pouvait plus faire de ce genre de choses à l'époque. C'est ce qu'il me semble, je ne suis pas du tout sûr. Il avait appris la photo un peu trop tard, probablement. Autrement, il l'aurait fait. C'est ce que je pense.
Pedro.
J'ai l'impression, je ne sais pas sûr, parce que nous, on a expliqué que ce sont toutes les séminaires, vous savez, Antoine avec Fontaine, un hôtel, l'ensemble de Paris, etc. Mais je crois qu'il y a des familles familiales. Mais je ne pourrais pas rentrer parce que je vais vous tenir la pierre de 3 ans, mais je regarderai et j'essaierai de vous traduire le texte qui vous paraît. Et vous connaissez les textes que vous voyez à l'instant.
Oui.
Donc c'est beau, par rapport à ce que vous avez dit, que finalement il s'est passé. On ne connaît pas le passé, mais il était allé entre mitos.
Vous pouvez aller au passé d'une page d'amour, un dossier d'une page d'amour. De l'œuvre. Mais c'est. Merci. Je veux simplement apporter deux informations. Il y a même des lettres datées de Saint-Sébastien, autant que je me rappelle, quand Zola a fait ses deux voyages pour Lourdes. Et quant à utiliser la photographie, je viens de me le faire confirmer par Jean-Pierre Le Ducadine, il y a un dossier documentaire, un dossier préparatoire, pardon, dans lequel il y a une photographie qui n'a pas été prise par Zola. Hein? Voilà. Donc il a travaillé avec une fois avec un panorama de Paris. Voilà. Non, mais il a utilisé une fois une photographie. Voilà.
Bon, merci beaucoup. Je profite de cette transition pour saluer Monsieur Lillamant, qui est parmi nous depuis le début de l'après-midi. Monsieur Lillamant est directeur des éditions du CNRS et est une de ces personnes très, très précieuses auxquelles nous devons la réalisation de la correspondance de Zola. Monsieur Lillamant, merci d'être parmi nous. Et la fin du colloque approche, et vous savez qu'il y a une sorte de rhétorique des colloques, et je n'ai pas travaillé là-dessus, mais parfois on entend la phrase « Madame X ou Monsieur Y, pas la peine de le présenter », et puis on lui passe la parole, parfois c'est très vrai, et parfois c'est moins vrai. Et, en l'occurrence, avec Henri Mitran, je crois que s'il y a une personnalité ici qu'il ne faut pas présenter, c'est bien Henri, et vous connaissez aussi tous sa modestie. Il m'a interdit d'ajouter quoi que ce soit à la présentation, donc je respecte l'amitié d'Henri et sa modestie. Je lui donne la parole et je le remercie d'être venu, d'être revenu de New York pour être parmi nous comme il a toujours été. Et il nous parle du musée dans le texte.
Merci,
Henri. Merci, Henri.